Bonjour, bienvenue à l'émission Aime l'été, ici Chantal Lavoie, mardi 15 août. C'est toujours un plaisir de me retrouver avec vous en pleine heure de lunch pour discuter d'activités de toutes sortes, pour vous présenter des gens qui s'engagent dans leur communauté à travers tous ces événements qui ponctuent notre saison estivale, année après année. Et pour notre rendez-vous d'aujourd'hui, ça ne fera pas exception. Suivez-nous sur des chemins aussi variés qu'intéressants au cours de la prochaine heure, du cinéma à Percé, de la musique classique à Montréal, mais nous allons également parler d'un projet inclusif pour les personnes autistes. C'est tout cela, Aime l'été. Et en détail à l'émission, le groupe Saint-Hubert, en collaboration avec la Fondation Autiste et Majeur, donnait en 2023 le coup d'envoi à ses projets d'inclusion. Un projet pilote a été lancé visant à accueillir une clientèle de personnes autistes dans 5 des rôtisseries Saint-Hubert adaptées, mais on développe aussi des stratégies d'embauche, de formation et de sensibilisation qui faciliteront l'accueil de personnes autistes à travers l'entreprise. À compter de demain jusqu'à dimanche, c'est la 10e édition de la Virée classique de l'OSM. On discute de la programmation avec Marianne Perron, directrice principale secteur artistique de l'OSM. Mais d'abord, un festival de films bien attendu du côté de Percé, la 15e édition du festival Les Percéides, dont le porte-parole cette année est nul autre que le comédien et réalisateur Luc Picard. On en discute avec Guillaume Whelan, directeur de la programmation. Alors jusqu'à 13h, soyez des nôtres à Aime l'été. Je remercie bien sûr Anaïs Sabourin à la recherche et aussi à Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical, oui, qui m'accompagne aujourd'hui. Alors, on parle effectivement à Monsieur Guillaume Whelan, directeur de la programmation des Perséides. Bonjour.
Bonjour Chantal.
Eh oui, ce festival de films très attendu qui va se dérouler du 15 au 20 août et qui est bien sûr consacré au cinéma d'auteur. Alors vraiment, c'est une belle programmation que vous nous réservez encore une fois.
Oui, certainement. Cette année, on marque un grand coup pour célébrer le 15e anniversaire. C'est une sélection record de films. On parle de 115 films, un peu moins qu'une trentaine de longs-métrages et 90 courts-métrages. Et on va être dispersés dans 3 salles. On a 2 salles à Percé, notre nouvelle salle acquise mais l'année dernière dans une grange patrimoniale. Puis, on est aussi à Gaspé essayer de faire partager, de faire rayonner le cinéma d'auteur le plus possible sur la pointe gaspésienne. Donc vraiment, ça promet. Coup d'envoi ce soir à 19h. Il y a un film de pré-ouverture aussi à 15h. Mais déjà, pour 19h, on est à guichet fermé. Il y a beaucoup de gens qui sont très enthousiastes d'assister au film d'ouverture. Richelieu, d'ailleurs, qu'on va présenter avant qu'il prenne l'affiche. Oui, en grande première gaspésienne.
Alors, ben oui, parce qu'en fait, l'idée même du festival, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement tous des films. Bon, bien sûr, il y a des premières, là, des premières canadiennes, premières nord-américaines, bien entendu. Il y a des films qui sont des nouveautés, mais pas que des nouveautés non plus. Je pense que le critère, c'était surtout d'accueillir des films qui n'avaient pas été présentés en Gaspésie.
Oui, c'est ça, exact. On essaie de combiner le plus possible de nouveaux films et de films qui ont déjà pris l'affiche. Parce qu'en Gaspésie, il y a peu de cinéma. Il y en a un à Gaspé, à Chandler, qui présente surtout essentiellement des productions, des grosses productions américaines, ce qui est bien correct aussi. C'est juste que le cinéma d'auteur ne rayonne pas autant qu'on le souhaiterait.
Mmh, c'est ça.
Alors oui, c'est des films peut-être à Montréal ou dans les grands centres à Québec que les gens ont déjà pu voir, mais nous, les Gaspésiens, non, malheureusement, on ne les a pas vus encore et ce sont des films merveilleux qu'il faut qu'ils soient visionnés le plus possible. Donc, c'est pour ça que, oui, en effet, il y a beaucoup de films qui ont déjà pris l'affiche, qui ont déjà vécu leur première québécoise et tout, mais en Gaspésie, jamais. Alors, c'est ça, ça vaut la peine.
Mais absolument. Et d'ailleurs, bon, et puis parlons de cette nouvelle salle de cinéma. Bien sûr, il s'agit de la grange patrimoniale Charles Robin, qui a abrité l'ancien centre d'art de Percé. En fait, c'est mythique comme endroit. Je sais qu'on en avait parlé l'an passé parce que c'était l'an passé une première. C'était l'accueil officiel. Et puis, alors donc, c'est vraiment, cette salle a eu tout un rayonnement dans l'histoire de Percé.
Oui, certainement. C'est une grange qui date du 18e siècle. Par la suite, ça a été repris par des grands acteurs culturels à Perté. Et là, nous, on a cette salle-là depuis, en fait, la grange depuis un certain moment, depuis quelques années.
Oui, depuis 2019, je crois, c'est ça.
Oui, c'est ça, exact. Et là, depuis l'année passée, on a construit une vraie salle de cinéma à l'intérieur. Une salle qui s'apparente un peu au cinéma moderne à Montréal. Donc, cinquantaine, soixantaine de places environ. Puis, il y a vraiment une belle proximité avec les cinéastes qui sont invités. Parce que, bon, on a, oui, une salle de cinéma, mais à côté, dans la grange, qui est très grande par ailleurs, il y a un espace bar, un espace lounge. Donc, il y a vraiment une possibilité de parler avec les cinéastes, les équipes techniques, les artisans des films après les projections. Et donc, il y a vraiment ce côté-là qui, je pense, qui nous distingue de certains festivals. Alors, ça vaut la peine, vraiment.
Exactement, ça ajoute à l'expérience. Ouais.
Oui, certainement.
Et puis bon, évidemment, parallèlement à ça, on peut avoir du cinéma sur la plage, on peut avoir toutes sortes d'événements qui se greffent à ça. Évidemment, au fil des ans, ça s'est bonifié. Alors bon, bien sûr, l'an passé, c'était Michel Nanteau qui était porte-parole de l'événement. Et cette année, c'est Luc Picard, hein, ce comédien, réalisateur bien connu. Donc, vous avez des porte-paroles aussi très, très inspirants, quoi.
Oui, certainement. C'est en plus ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas très difficile de les convaincre de venir être président d'honneur, parce que oui, on est à Perté, c'est loin, mais c'est une ville magnifique. Oui, l'été, sur le bord de mer, il y a des activités uniques comme notre traditionnelle ciné-croisière, où est-ce qu'on prend le large, on va en bateau au large de l'île Bonaventure, où est-ce qu'il y a la plus grosse colonie de fous de bassin au monde, en Amérique en tout cas. Puis, il y a des événements très emblématiques sous les étoiles de Percé. C'est ça qui, je pense, qui fait que les gens ont autant envie d'aller en Gaspésie malgré la grande route. Mais en même temps, c'est la route 132 entre les montagnes et la mer, alors c'est pas dur de convaincre les gens.
Non, je m'excuse, là, c'est ça. Eh bien, effectivement. Et puis, il y a des rencontres aussi très importantes, des rencontres très importantes à faire avec notamment les porte-paroles qui donnent un peu, en quelque sorte, des classes de maître.
Oui, exact. Comme Luc Picard, cette année, il va donner une classe de maître pour son premier long métrage qu'il a réalisé en 2005. Se nomme l'audition. Alors ça se passe dans notre centre d'art et aussi pour marquer un grand coup avec notre nouvelle collaboration à Gaspé. On va présenter aussi son dernier film qui se nomme Confession, un film différent de ce qu'il a fait d'habitude, là, qui
tout
est un film policier, film de bandit. Alors il va aussi présenter ce film-là à Gaspé et on a un producteur portugais qui est arrivé d'ailleurs aujourd'hui à Percé. Et lui, dans le fond, on essaie de collaborer davantage avec des festivals qui sont internationaux parce que François Cormier, qui est le directeur général des Perséides, il est allé à Indie Lisbonne, une espèce de festival qui s'apparente au nôtre, un peu plus gros quand même, mais qui présente du cinéma d'auteur, du cinéma indépendant, émergent et tout. Et là, c'est la première fois qu'il allait là-bas et il a convaincu Bruno Cabral de traverser l'Atlantique pour partager le cinéma portugais.
Oh, quand même, c'est pas rien, hein?
On va présenter Mal d'hiver, justement, un film en première nord-américaine qui a remporté prix du jury à la dernière Berlinale. Donc ça, c'est un grand honneur qu'on a, puis c'est grâce à cette collaboration-là que c'est possible.
Ah, ben c'est ça. Quand on est à un festival qui rayonne comme ça autant, ben c'est sûr que ça donne de belles rencontres et ça nous donne de belles surprises, en fait. Et puis, c'est sûr que, justement, je pensais à deux personnalités connues qui se sont rencontrées, justement, l'an passé. Notamment, je pense à Hugo Latulippe, là, qui, avec quelqu'un d'autre, a eu l'idée, finalement, d'offrir un trophée hommage à Jean-Marc Vallée, bien sûr, alors que Hugo Latulippe qui s'occupe maintenant du Festival de Québec de film, un festival de films à Québec. Et puis, alors, ils ont un trophée Jean-Marc Vallée maintenant, mais c'est vraiment par ces rencontres professionnelles de gens qui se rencontrent chez vous que parfois ça peut donner de belles choses. Alors, effectivement, donc, il y a tout ce volet-là des journées des professionnels, donc des gens qui peuvent se rencontrer du milieu cinématographique, et que ce soit long métrage, que ce soit court métrage. Alors, c'est vraiment très dynamique.
Oui, exact. Et en plus, depuis 3 ans, on offre une journée professionnelle du cinéma où les professionnels se rencontrent, discutent de l'industrie. Il y a plusieurs thèmes abordés. Là, cette année, c'est de l'écriture à l'écran, de l'écriture à la réalisation. Donc, ces réalisateurs-là qui écrivent leur propre scénario, comme Luc Picard le fait parfois, Alors, les cinéastes qui travaillent eux-mêmes sur leur scénario et décident de le mettre en image et tout, quel est le processus derrière ça? Et il y a des réalisateurs qui vont parler de leur point de vue en tant que réalisateur, des scénaristes qui vont parler de leur point de vue en tant que scénariste. C'est ça que peut-être qu'il va y avoir encore une nouvelle grande idée qui va voir le jour suite au Festival des Persides. En tout cas, ça promet.
Ouais, ben je vous le souhaite en tout cas. Puis bon, je vous souhaite quand même du beau temps parce qu'il y a des événements bien sûr extérieurs. Et puis est-ce qu'on peut nommer peut-être d'autres films qui seront présentés?
Oui, certainement. On va présenter Les Chambres Rouges, le film dont tout le monde parle en ce moment au Québec. le suspense psychologique de Pascal Plante, troisième long métrage. On présente aussi ce qui pourrait être le dernier film de Bernard Raymond, le prolifique cinéaste québécois.
C'est vrai.
Grand cinéaste d'auteur.
Une femme respectable,
oui, exact. Sinon, film de clôture, Les Meurtres qui ne peut rester sous silence, première nord-américaine qui a gagné prix du jury à Cannes. Parce que oui, j'ai pu aller à Cannes cette année pour faire un peu de réseautage, partager le cinéma de la Gaspésie et tout. Alors, c'est grâce à cette passage-là, comme ça, j'ai réussi à voir ce film-là. Alors, les personnes, comme vous l'avez mentionné, grandissent d'année en année, puis je pense qu'on va réussir à en parler de plus en plus. En tout cas, c'est notre souhait.
Ben absolument. Donc, c'est tellement un bel événement. Puis en même temps, ben, je pense aux gens qui sont les gens de la communauté, bien évidemment les jeunes aussi, qui, grâce à ces festivals, se découvrent des carrières.
Oui, exact, parce que on donne une tribune aux longs métrages. Les longs métrages, souvent, bon, il faut avoir les grands financements. Ce sont souvent plus des cinéastes accomplis, bon, qui sont plus âgés, qui peuvent réaliser ce genre de film. Mais les courts métrages, c'est la porte d'entrée pour les réalisateurs, réalisatrices du Québec. Alors, on en présente énormément cette année, et il va y avoir justement beaucoup de jeunes qui vont pouvoir parler de leur expérience, parler de leur histoire. Et souvent, les courts métrages, c'est des artisans qui occupent plusieurs postes, monteurs, scénaristes, réalisateurs, parfois même acteurs. Alors, c'est touche à tout. C'est vraiment, c'est genre des films où on sent vraiment une touche spéciale des réalisateurs. Alors, c'est important de les propager le plus possible.
Ben oui, 90 courts-métrages aussi, c'est quand même important. Et puis, c'est le début de bien des carrières, c'est ça, pour de jeunes réalisateurs qui commencent, bien sûr, avec des courts-métrages la plupart du temps. Alors, vraiment, c'est l'occasion pour découvrir des films provenant de 25 pays. Et donc, avec le porte-parole Luc Picard, entre autres, cette année. Mais pour les visiteurs, c'est très intéressant aussi, hein?
Oui, ben définitivement, parce que c'est une salle patrimoniale magnifique. Il y a des discussions, des activités emblématiques qui sont disponibles nulle part ailleurs. Si jamais il y a des touristes, bon, qui n'ont pas vu certains films, j'ai entendu parler de tel film, mettons, à titre d'exemple, Asbestas, film espagnol qui a tout raflé à la dernière célébration des Goya, l'équivalent des Oscars aux États-Unis, pardon. Tu sais, Asbestas, on va le programmer. Il va aussi y avoir Nouveauté Subterranean. Ça, c'est un film aussi unique, première québécoise qu'on a, cinéma d'aventure, parce qu'on est en Gaspésie. Puis, c'est le pays du plein air, c'est la péninsule du plein air ici. Alors ça, c'est l'histoire de deux groupes d'adeptes de la recherche, de l'exploration des caves, des grottes et tout, qui vont dans les Rocheuses pour essayer de trouver le chemin à la fois le plus profond dans les montagnes ainsi que le plus long. Alors, le spectateur embarque dans cette expédition-là. C'est super intéressant de filmer avec des GoPros. C'est allé au Hot Docs à Toronto, grand festival de documentaires. Ça, c'est vraiment un film à ne pas manquer définitivement. Puis j'espère que sa carrière va partir par la suite parce que c'est merveilleux comme ça.
Ça vaut la peine, c'est ça. Donc. Et puis je me souviens très bien, l'an passé, j'avais entendu Micheline Langteau parler de la formule des ciné-croisières, c'est ça. Bon, mais ça, les ciné-croisières, là, il y en a. Est-ce que, comment ça fonctionne?
C'est vraiment, on est quoi, 70 personnes environ sur un bon bateau de croisière.
Ouais.
Puis on va au large de l'île Bonaventure.
C'est
et
ça,
on
comme
discute
vous dites,
avec
ouais.
Luc Picard. C'est comme un accès privilégié avec notre président d'honneur, puis notre équipe des Persides pour parler cinéma, mais aussi parler de la Gaspésie, des enjeux gaspésiens. Parce que moi, ça fait pas si longtemps que ça que je suis en Gaspésie. Ça fait 2 ans, puis bon, j'ai eu le coup de foudre, alors je suis toujours ici. Mais parler des enjeux régionaux, de pourquoi, qu'est-ce qui distingue la Gaspésie des autres régions, c'est vraiment le moment de discuter de tout et de rien, mais c'est surtout ça. Autour du cinéma, de la Gaspésie, de l'avenir de notre paysage cinématographique. C'est vraiment un accès privilégié qu'on a avec notre président d'honneur.
Oui, exactement. Parce que c'est ça, je voulais...
Bon vin et tout.
Ah, mon Dieu, ben c'est encore... je voulais revenir là-dessus parce que, bon, on disait que c'était une belle formule, mais c'est ça. Puis, il ne faut pas s'attendre nécessairement. Ce n'est pas une projection de film. C'est vraiment cette rencontre avec le porte-parole, avec les gens de l'équipe. Et puis donc, ça crée un beau moment. Et en même temps, ben, c'est la petite croisière, c'est ça, pour aller voir les fous de bassin. Alors, c'est merveilleux.
Oui, bon, ben, en tout cas,
oui, c'est ça. Alors, le festival Les Perséides qui nous reviennent pour une 15e édition. Alors, c'est pas banal, dans un endroit pas banal, dans un décor majestueux, on s'entend. Alors, c'est une belle raison de faire concorder nos vacances, finalement, avec ce festival. C'est une très bonne idée, peut-être même pour l'an prochain.
Oui, c'est ça. Mais on débute ce soir. Si jamais vous avez envie, Chantal, de prendre la route, c'est seulement 11 heures de route.
On est à 12 heures de route, oui.
Oui, c'est ça. C'est pas pire. Ça se fait. Pour voir du bon cinéma, voir Luc Picard, voir plein de comédiens et tout. Ça vaut la peine.
C'est parfait. Ben, gros merci, Guillaume Walland, d'être venu nous en parler, directeur de la programmation du festival Les Perséides, festival de cinéma bien connu.
Avec grand plaisir. Alors, merci de l'invitation. Toujours le fun de voir Montréal s'intéresse au festival.
Ah oui, absolument.
Québec.
Ah oui, on adore. On adore voyager. Bon, alors, oui. Puis on adore le Québec. Merci beaucoup.
Merci, Chantal.
Et bon festival.
Merci.
le groupe Bon Enfant qui chantait la chanson « Cinéma ».
Eh oui, en lien avec le festival de films Les Perséides. Eh bien, j'accueille Marianne Perron, directrice principale secteur artistique de l'OSM. Bonjour, Marianne.
Bonjour, Chantal.
Évidemment, c'est notre rencontre, c'est notre rencontre annuelle pour parler de cette virée classique. Mais bon, tout l'été, vous avez été quand même très actif. Hein. Il y a eu ces concerts dans les parcs, il y a eu le festival de Lanaudière. Ça s'est passé comment, votre été?
Bien, écoutez, ça s'est vraiment bien passé. C'est une période de l'année qu'on adore. C'est une vraie tradition, même depuis la création de l'orchestre en 1934. Donc, d'aller jouer dans les parcs, on a commencé au pied du Mont-Royal et puis en 1934, dans les années 30, et puis on s'est déplacé progressivement dans les parcs, dans les différentes villes de Montréal. Alors, c'est une tradition qui est très, très, très importante.
Et oui, c'est Wilfrid Pelletier qui avait initié ça.
Certains soirs, il le plaît beaucoup.
J'y ai bien pensé, oui, je suivais ça un peu, oui.
Mais voilà, mais en même temps, le plaisir de retrouver notre public, de jouer pour les gens de notre communauté, ça c'est formidable, on est heureux.
Ah oui, c'est vraiment une belle expérience, les gens adorent ça. Alors vraiment, ça a été un bonheur que de vous retrouver comme ça dans les parcs, évidemment, tous ces concerts qui avaient été initiés en 1934, parce que c'était Wilfrid Pelletier à l'époque, hein? Alors vraiment, toute une belle tradition. Et puis le Festival de Lanaudière, bien sûr. Alors ça a été aussi un succès, oui, bien sûr, comme toujours. Mais bon, là, c'est la virée classique, c'est votre festival, vraiment. Alors c'est maintenant, c'est quand même la 10e édition. Alors c'est vraiment, écoutez, vous avez parti ça avec Maestro Kent Nagano, et puis là, ça se poursuit. Ça veut dire que les gens en redemandent.
Oui, absolument. C'est notre 10e édition, la 2e avec Raphaël Payaré. Mais c'est vrai que, il y a une douzaine d'années, hein, si on considère qu'il y a eu une petite interruption à cause de la pandémie.
Oui, c'est vrai.
L'idée, c'était vraiment, dès le départ, de créer un festival international dans le cadre duquel, également, nos meilleurs artistes québécois et canadiens pourraient se produire. La première année, nous avions une vingtaine de concerts. On a augmenté le nombre de concerts, donc, en l'espace de pendant 2 ou 3 jours, et maintenant c'est 2 jours et demi, donc on présente 26 concerts de 45 à 60 minutes à la Place des Arts, à la Maison Symphonique, et plus d'une centaine d'activités gratuites. Alors c'est vraiment une célébration de la musique que nous avons voulu faire avec et pour la communauté québécoise.
Et oui, ça veut dire, Marianne, une préparation une préparation de toute l'année. Il y a des gens qui travaillent, j'imagine, à l'année pour préparer tout ça.
Mais en fait, on a une équipe extrêmement passionnée, engagée, compétente, qui travaille très, très fort. Alors, en plus de la centaine de concerts qu'on donne dans une saison régulière entre septembre et la fin du mois de mai, effectivement, cette équipe se dévoue pour concevoir, créer, présenter ce festival, parce qu'on pense que c'est important, que c'est une façon d'être tous ensemble, de partager le bonheur, les joies de la musique. Alors oui, c'est un festival qui est très important pour
nous. C'est ça. On se demande même si vous dormez, Marianne, c'est ça, avec tous ces événements, et vous êtes toujours au cœur de cette programmation, bien sûr, même si l'équipe, vous n'êtes pas seule, bien entendu. Mais alors c'est ça, mais on parlait de tous ces activités qui se sont développées autour, finalement, de la musique. Là, il y a plein d'autres choses au fil des ans, et je pense à des... on va pouvoir apprécier l'Octobass, entre autres. On va pouvoir faire du yoga. Enfin, il y a plein de choses. Mais justement, parlons, cet Octobass que vous mettez en valeur, là, que l'on pourra voir de près.
Oui, effectivement. En fait, dans deux concerts, deux programmes de la Maison Symphonique, donc avec orchestre, on utilise l'Octobass dans une œuvre de José Evangelista, que nous avions commandé pour l'anniversaire du métro de Montréal il y a quelques années, donc il utilisait l'Octobass, mais également dans les célèbres Carmina Burana, on peut utiliser l'Octobass, alors on le fait avec plaisir. Mais les gens qui viendront également à la Maison Symphonique, qui viendront à nos concerts, peuvent aussi se rapprocher, découvrir cet instrument qui est un petit peu spécial, hein, évidemment, qui a été conçu au début du 19e siècle. Et on fera une brève présentation de cet instrument-là qui suscite beaucoup de curiosité.
Mais oui, alors c'est vraiment parce que c'est gros, hein, c'est impressionnant d'une part. Hein. Il faut monter sur un petit tabouret, là, pour en jouer.
Oui, effectivement.
Et puis on la voit bien souvent, vous en avez au moins deux là. Hein. Si c'est pas
en
trois?
En fait, on a accès à trois octobasses. C'est le seul orchestre symphonique qui a accès comme ça à des octobasses. Évidemment, on les utilise pas de façon si régulière, mais donc c'est pour ça que c'est un petit peu spécial cet été qu'on puisse y avoir accès puis qu'on puisse les utiliser. Donc c'est ça. Dans le cadre de notre programmation, de nos activités gratuites, il y a la découverte de certains instruments, mais il y a également des pôles où il y a des activités participatives, il y a des activités pour la famille, il y a énormément de concerts aussi.
Bien, bien sûr.
Qui est très importante pour nous, pour les concerts gratuits notamment, et dans le cadre de la Vierie, c'est la célébration de la pratique amateur. On a des artistes professionnels de grand niveau. On a des artistes en résidence, la violoniste Bonsori, le pianiste Jérémy Danck, le violoncelliste Nicolas Hachette. On a des artistes québécois incroyables comme Charles-Richard Hamelin, par exemple, qui vont participer. Mais parallèlement à ces artistes professionnels qui sont formidables et qui font notre fierté, il y a également le plaisir, vous savez, pour des enfants, des adolescents, des adultes, de jouer de la musique, de pratiquer un instrument, puis d'en faire ensemble. Alors, on a toute une programmation, notamment au complexe des jardins, mais également sur l'esplanade tranquille, où on veut vraiment célébrer ce plaisir de la musique et puis valoriser la pratique amateur parce que c'est formidable de jouer
mais
de la musique.
Mais oui. C'est au cœur, enfin, je veux dire, c'est la relève aussi, finalement, ces jeunes qui apprennent de la musique et qui en font sur une base amateur pour l'instant, mais qui seront les professionnels de demain.
Exactement. Puis il y a un ensemble qui représente bien ça. C'est un ensemble éphémère qu'on recrée à chaque année avec des amateurs de tous les âges. Ça s'appelle la Symphonie de la Virée. Ils vont donner deux concerts. Et ils se rassemblent pour répéter tout un programme sous la direction d'Adam Johnson. Et Raphaël Payari va également diriger une de ses pièces. Alors, voilà.
Bon, quelle belle expérience pour ces jeunes et puis pour le public aussi. Marianne, on s'arrête le temps d'une pause, mais on se retrouve et on va plonger vraiment dans notre programmation, en salle, entre autres, oui. Alors,
avec
à tout de suite.
Plaisir.
D'accord.
À tout de suite.
Écoutez, aime l'été.
Et oui, deuxième moitié d'émission et j'accueille toujours Marianne Perron, directrice principale secteur artistique de l'OSM. On parle bien sûr de la virée classique qui s'amorce dès demain sur l'esplanade du Parc olympique. Évidemment, spectacle grandiose comme toujours.
Oui, effectivement, demain, c'est véritablement le coup d'envoi de la virée classique. C'est une tradition aussi pour nous. La troisième fois que dirigera Raphaël Payari sur ce lieu. Et on aura l'occasion d'accueillir des solistes formidables, la violoniste Bonsori, la chanteuse Isabelle Léonard, donc dans des œuvres de Bizet notamment, et une œuvre de résistance, une œuvre orchestrale qui est tellement populaire, les tableaux d'une exposition de Moussorgski.
Eh oui.
Alors, donc on attend, comme d'habitude, des milliers de personnes et c'est véritablement le coup d'envoi de ce beau festival.
En effet, c'est toujours très couru. Alors donc, des grands airs d'opéra, bien sûr. Et puis bon, cette lauréate du Concours musical international de Montréal en 2016, là, donc, vous prononcez Bonsori, c'est comme ça que vous l'appelez?
Bonsori, oui, effectivement.
D'accord.
On a eu l'occasion de l'entendre pour la première fois à Montréal en 2016, comme vous le mentionnez, dans le cadre du Concours musical international de Montréal. Donc, elle se produisait aussi avec l'OSM, qui collabore à ce concours. Et depuis lors, sa carrière s'est développée de façon fulgurante. Donc, c'est une violoniste coréenne vraiment formidable. Et c'est un petit peu l'idée de la virée, c'est-à-dire que nos artistes en résidence, donc nous en avons trois, notamment Bonsori, mais comme je le mentionnais, le pianiste Jérémy Danck et le violoncelliste Nicolas Hachette, chaque artiste en résidence se produit avec orchestre, donc dans le cas de Bonsoiré au Stade olympique et dans le cas des deux autres à la Maison symphonique, mais on peut également les découvrir de façon, dans un contexte beaucoup plus intime, dans le cadre d'un récital ou de musique de chambre. Et ça aussi, ça fait partie de l'expérience, c'est-à-dire que, oui, vivre les grandes salles, les grands espaces avec tout l'orchestre, mais également de pouvoir se retrouver dans un lieu plus intime avec un autre type de répertoire. Et c'est une autre expérience qui est extrêmement riche et qui peut être très émotionnellement très prenante également.
Oui, tout à fait. Et puis bon, alors c'est sûr que ce sont des concerts très variés. Et puis bon, ça nous permet aussi de nous familiariser non seulement avec des musiciens, mais avec des œuvres. Et puis finalement, de découvrir tout l'univers de la musique classique en même temps, parce que c'est une sorte de concentré, parce que ce sont des concerts d'une heure, faut le dire. Là, c'est vraiment des concerts de courte durée, mais suffisamment longs pour que l'expérience soit, comme vous le dites, très prenante.
Exactement. Donc, des concerts de 45 minutes à 60 minutes qui nous permettent peut-être d'en faire deux ou trois, hein, d'assister à deux ou trois concerts dans la journée. C'est une programmation qui peut être extrêmement intéressante pour des mélomanes qui connaissent la musique depuis très longtemps, mais aussi pour ceux qui ont envie de découverte. Alors, on peut entendre l'Orchestre symphonique de Montréal dans un répertoire d'œuvres, par exemple, de Mendelssohn, de Tchaïkovski, mais également, par exemple, il y a un événement très spécial. Nous allons faire la première canadienne, c'est-à-dire que nous allons jouer pour la première fois au Canada une pièce de Wynton Marsalis. Vous savez, ce grand jazzman très associé aussi avec la musique classique. Donc, il a écrit récemment un concerto pour trompette. C'est pas lui qui va jouer ici à Montréal, c'est Paul Merkelou, première trompette.
Oui, c'est ça.
Et c'est une commande, donc plusieurs orchestres se sont rassemblés pour lui commander cette œuvre, l'Orchestre de Cleveland, l'Orchestre de Londres, etc. Et donc, ça, c'est un moment très spécial, la première fois que ce concerto sera interprété au Canada, et ce sera avec Paul Merkelou, l'Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de Raphaël Payari. Alors ça, c'est un des nombreux concerts avec orchestre que les gens auront l'opportunité d'entendre.
Ah bon, ben c'est merveilleux. Et puis, bien sûr, Maestro Payari qui va diriger 9 concerts parmi les 26 prévus, finalement, et dont le célèbre Carmina Burana, de Orff.
Exactement. Oui, les Carmina Burana sont présentés 2 fois. Alors oui, je dois dire que Raphaël Payari, on le fait travailler.
Oui, il va être occupé.
mais il plonge dans ce festival. Pour lui, c'est un pur bonheur. Quand on lui demande est-ce qu'il y a une limite, il nous dit non. C'est le plaisir de partager ces moments-là avec les musiciens, l'orchestre des Montréalais, des Québécois. Alors, donc, c'est quelque chose qu'il adore faire. Et puis, d'ailleurs, en plus des concerts qu'il dirige, il va également sortir, se promener dans les différents lieux où on présente des activités, des concerts gratuits. Alors, il y a des moments aussi où les gens pourront le rencontrer, serrer la main
Quelle
et parler
joie.
Un peu avec lui. Oui,
ouais.
Parce
que maintenant, il parle français quand même assez bien. Hein? C'est vraiment remarquable. Hein? Et puis, c'est ça. Puis les œuvres, tant qu'il y a de la musique, lui, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est ça, on peut lui en donner, comme vous dites, autant comme autant. Alors, on plonge dans différents univers musicaux, bien sûr, parce qu'il y a toutes sortes, je pense aussi à un ensemble, l'ensemble Obiora, hein, premier ensemble de musique classique canadien, composé essentiellement aussi de musiciennes et de musiciens de la diversité.
Oui, exactement. Alors ça, c'est tellement une belle initiative. On les a invités déjà l'année dernière, et puis effectivement, c'est un orchestre composé de membres professionnels issus de la diversité, et Raphaël Payari va diriger ce concert. Alors, c'est vrai, ce sera un beau concert. Ils joueront notamment la petite musique de nuit de Mozart, mais également d'autres œuvres au programme. Et parmi les autres orchestres ou ensembles invités, nous avons également l'Harmonie des Saisons. C'est un ensemble de musique ancienne qui interprétera les Vêpres de la Vierge de Monteverdi. On a une scène au Québec de musiciens spécialisés en musique ancienne qui est formidable.
Absolument.
Alors, on est très heureux d'accueillir cet ensemble. On a également Film Harmonique, un orchestre spécialisé en musique de film, sous la direction de Francis Choignard. un ensemble de gamelans balinais. Donc, vous savez, on sait un petit peu à quoi ressemble notre musique classique, mais il y a des musiques classiques de d'autres traditions. Et puis, pour nous, c'est vraiment important de donner la possibilité au public montréalais, québécois, d'avoir accès, de découvrir cette musique. Alors, ce serait une opportunité.
Oui, alors on intègre la musique du monde. Et puis, en fait, un ensemble qui l'incarne très bien, c'est Octo Echo, hein?
Ah, ça, c'est vraiment tellement aussi une belle initiative. C'est sous la direction de Katia Magisi-Warren. Et donc, cet ensemble-là est très spécial parce que il regroupe des musiciens de différentes traditions, que ce soit du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, des chanteuses inuites, hein, de chants culturels.
Ils font des chants de gorge, il va y en avoir d'ailleurs, c'est ça?
Absolument. Donc, ce sont des gens qui portent différentes traditions, mais qui créent des rencontres, qui créent des œuvres qui sont vraiment ancrées dans notre époque, qui sont très actuelles.
C'est vrai.
Et c'est un concert, moi, que je ne manquerai pas.
Oui, alors c'est ça. Puis, ben, il y a aussi, pour parler d'un musicien en particulier, le lauréat aussi du concours OSM 2022 qui sera parmi nous.
Oui, alors évidemment, le concours de l'OSM est une grande tradition également. Depuis toujours, puis même dès la création de l'orchestre, il était important pour nous de supporter les jeunes artistes québécois et canadiens. Alors cette année, Godwin Friesen, qui vient de remporter le concours de l'OSM en piano, donnera un récital. C'est un jeune artiste qui vit à Montréal maintenant et qui est vraiment de grand talent. Alors ce sera un beau récital pour piano.
Alors, c'est ça. Hein? Bon, finalement, c'est une virée classique qui s'annonce enlevante. Et puis, bien sûr, vous avez votre porte-parole Magali Lépine-Blondeau cette année. Oui, porte-parole de cette virée classique 2023 qui s'ouvre demain. Et juste pour compléter aussi, on a évidemment cette programmation gratuite très importante. Bon, est-ce qu'il y a des concerts là, qu'il faut absolument, qui sont à suivre là? Et puis, d'autres concerts dont on n'a pas parlé là?
Oh,
il y en a tellement, je le sais.
Mais c'est difficile de... Ah, il y a peut-être un... Je vous ai parlé de Marsalis et je sais que c'est un compositeur que plusieurs personnes aiment. Il y a une pièce qui s'appelle Fiddler's Tale, qui est l'histoire d'un soldat qui retourne chez lui en permission et qui rencontre le diable. Donc, c'est une histoire, un conte. Et Wynton Marsalis a écrit une musique pour un petit ensemble très jazzy, très, très belle. Et il y aura un narrateur qui s'appelle Nantali Indongo et qui est assez connu de plusieurs jeunes qui la suivent parce que c'est également une artiste, une chanteuse populaire. Alors ça, c'est peut-être parmi les concerts auxquels j'assisterai, mais la musique de chambre, des récitals, etc. Moi, j'aurais envie de dire aux gens, écoutez, venez à la virée, plongez, et ne boudez pas votre plaisir, prenez des risques, je suis certaine ouais. que vous allez apprécier, et puis partez à la découverte de la musique, ouais. Je crois que ce sera un beau moment.
C'est fait pour ça, de toute façon, la virée classique, vraiment. Et puis, vous parlez de musique ancienne, je pense à d'excellents musiciens comme Margaret Little, à la viole de gambe, qui sera là, avec Sylvain Bergeron à l'archilute.
Ah,
alors,
oui.
des instruments aussi à découvrir pour certaines personnes qui ont moins l'habitude, finalement.
En fait, je pense que c'est tout ça. Et puis, par rapport aux activités gratuites, vous savez, si on regarde la programmation, allez sur notre site, vous allez avoir tout le détail, mais il y a des causeries, des tables rondes,
oui, c'est
des
très riche.
Participatifs, etc. Donc, on peut vraiment venir passer toute une journée sur le site et assister à des concerts, participer, voir des films. Les choristes seront projetés, ce merveilleux film. Et puis, il y a également de l'opéra qui sera diffusé en soirée. Ouais. Alors, oui.
Alors, puis c'est ça. Puis amenez les enfants aussi, les enfants, amenez vos jeunes qui sont en âge, bien sûr, d'apprécier, parce qu'effectivement, c'est peut-être la relève de demain. Et ce sont des concerts qui sont quand même très abordables. Bon, c'est pas des concerts là, de la saison régulière, on s'entend, c'est pas des concerts de 2 heures. Là. Alors, c'est quand même donc plus abordable et c'est un beau moment de découverte. Et puis, on peut faire du yoga aussi, tout en musique. Hein?
Absolument. Sur le Sonate Tranquille, il y a des ateliers de yoga. On a vraiment conçu la virée de façon à à faire en sorte que les gens puissent avoir accès à la musique classique et que le coût de billet ne soit pas un frein.
Exact.
Donc, le coût des billets est extrêmement, beaucoup plus accessible que peut-être l'offre de façon générale dans une année régulière. Et il y a énormément d'activités gratuites. Donc, effectivement, le yoga, c'est une belle façon de partir la journée.
Tout à fait. Puis, je pense qu'il y en a qui seront ravis, les jeunes, entre autres, peut-être, de découvrir cette boîte à musique géante. Là. C'est une œuvre d'art publique interactive aussi. Alors, c'est porté par une œuvre du compositeur québécois Maxime Goulet, excellent compositeur aussi. Alors, vraiment à découvrir, ouais.
Oui, vraiment à découvrir. On l'inaugure vendredi et puis elle sera accessible et puis vous pourrez entendre la belle musique que Maxime Goulet a composée pour ce projet et qui sera interprétée par l'Orchestre symphonique de Montréal.
Bon, merveilleux. Marianne, ça a été un plaisir encore une fois. Le coup d'envoi demain, donc au Parc olympique sur l'Esplanade. Alors vraiment des airs d'opéra, enfin de tout quoi. Et puis c'est ça, on sera là, on sera au rendez-vous. Merci encore une fois et bonne virée classique, Marianne Perron.
Merci à vous et puis on vous attend tous.
Oui, c'est
merci.
Ça. Ah, oui, 15e édition cette année.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
On vient d'entendre A Fiddler's Tale de Wynton Marsalis.
Eh bien oui, donc ça c'était dans le cadre, bien sûr, un lien à faire avec la virée classique. J'ai dit 15e édition, en fait je me suis trompée, j'étais généreuse à la fin là. J'étais rendue à la 15e édition, non c'est la 10e édition. Voilà. Alors bon, après avoir parlé à Marianne Perron, là finalement, ouais, c'est ça, J'ai grossi l'affaire. Bon, Myriam Saint-Pierre, cette fois, j'accueille, Myriam Saint-Pierre, coordonnatrice d'activités bénéfices de la Fondation Autiste et Majeur. Et oui, c'est un organisme qui s'intéresse aux personnes autistes. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
Alors, bien des choses à dire. D'une part, vous avez travaillé en collaboration avec les rôtisseries Saint-Hubert il n'y a pas longtemps parce qu'il y a eu un projet pilote pour accueillir des personnes autistes en salle à manger, mais aussi faire de la formation pour les employés. Ça a été vraiment... ça, c'était au printemps que ça s'est fait. Alors, très belle initiative, vraiment très intéressante. De toute façon, la Fondation des rôtisseries Saint-Hubert, ben, faut dire que, bon, ils sont très engagés hein, dans la communauté. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'organismes qui chaque année, profitent de toutes sortes de projets. Là, c'est ça, en collaboration avec la Fondation Saint-Hubert. Mais la Fondation Autiste et Majeure, vous existez depuis quand?
On va fêter notre 3e anniversaire à l'automne.
Quand même, hein? Et puis, ça a été, bon, cette fondation-là, ben, ça a été parti, bien sûr, avec des personnalités connues.
Oui.
Charles Lafortune, pour ne pas le nommer. Ben oui, c'est ça. Ben, enfin, on connaît bien avec sa femme et tout. Et puis, donc, vraiment, c'est ça. Ça parle, évidemment, d'initiatives de parents, d'enfants autistes qui, finalement, vivent avec le spectre de l'autisme. Et puis, bon, alors, 3 ans, et puis, ben, ça a été... C'est parti en grand, finalement.
Oui, effectivement. On a eu, dès le départ, là, dès la création de la Fondation, il y a des donateurs majeurs qui se sont vraiment joints à la Fondation Autiste et Majeure, ce qui nous a permis, là, en 2 ans d'activité, d'aller financer pour 1,2 million de projets auprès de 8 organismes dans tout le Québec, là, parce qu'on dessert vraiment la province du Québec au complet. Donc, c'est un bel accomplissement. Puis, Saint-Hubert, la Fondation, fait partie d'ailleurs des donateurs là, majeurs de la Fondation.
C'est ça. Donc, tout à l'heure, ben, je parlais de Charles Lafortune, Sophie Préjean, bien sûr, qui était au cœur de cette initiative. Mais c'est parce qu'en fait, ils se sont aperçus eux-mêmes que les besoins étaient grands et importants aussi, et que beaucoup de parents étaient laissés à eux-mêmes dans tout ça.
Exactement. Donc, l'enjeu survient davantage. En fait, le constat, c'est lorsque l'enfant arrive à 21 ans, l'école, pour lui, s'arrête. Donc, le parent... a son enfant autiste à la maison et il y a peu de ressources pour la suite. Il y a comme une coupure, en fait, dans le système, une espèce de trou noir. Et l'enfant de Charles et Sophie, Mathis, est arrivé à 21 ans. Donc, ils ont voulu créer la fondation pour soutenir des projets, justement, pour les jeunes adultes autistes de 21 ans et plus, principalement. Donc, on va soutenir des projets qui touchent la poursuite de l'éducation ou encore des centres de jour ou encore l'intégration, justement, sur le marché du travail, comme on a fait à l'usine de Saint-Hubert là, au printemps.
Oui, parce que c'est ça. Donc, on les a intégrés. C'est ça, les rôtisseries Saint-Hubert ont intégré des personnes autistes dans leur usine. Et puis, bon, ben, ça porte fruit. Et ça porte fruit à bien des endroits. Comme ça, il y a beaucoup d'entreprises. Et d'ailleurs, il y a des organismes qui aident des entreprises à intégrer des gens, finalement, qui vivent avec un handicap, quel qu'il soit. Alors ça, c'est toujours bien de le souligner. Donc, on peut, comme entrepreneur, faire appel à cette ressource-là qui est importante. Là, les gens peuvent travailler quand même. Et puis, mais bon, c'est sûr que dans les faits, là, il y a quand même des personnes qui, à la fois, sont différentes. Hein. Il n'y a pas une personne autiste qui est tout à fait pareille. Alors, c'est ça un peu là aussi le défi. Hein.
Exactement.
Alors, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment remarquable qu'en si peu de temps, vous ayez pu finalement aider autant d'organismes. Alors, j'imagine que c'est ça parce que c'est ces parents qui sont laissés à eux-mêmes. Bon, parce que les ressources, quand ils sont jeunes, ils sont quand même pas si nombreuses que ça.
Non, elles sont pas si nombreuses, mais il y en a. Il y en a parce qu'il y a, bon, il y a l'école à la base, donc l'enfant peut fréquenter un milieu scolaire. C'est comme une obligation au Québec de scolariser les enfants.
C'est vrai.
Donc, le besoin, il est moins criant. Là où il y a vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, un trou, là où il y a comme une zone là, où les familles, en fait, sont laissées à eux-mêmes, c'est vraiment quand l'école s'arrête à 21 ans parce que pour la majorité des gens qui ont des enfants, ben à 21 ans, notre enfant, il est autonome. Il va poursuivre ses études ou il va travailler.
C'est considéré comme un adulte, mais
exactement.
Bon, mais il vit des défis énormes.
Exactement. Donc, quand notre enfant n'est pas en mesure d'avoir un travail, il n'est pas en mesure d'avoir un endroit où aller du lundi au vendredi, quand nous, on devrait normalement travailler, qu'est-ce qui se passe dans nos vies, qu'est-ce qu'on fait, comment on gère ça? Donc, le centre de jour, exemple, les centres de jour, ben ça permet à l'enfant de se réaliser. Ben là, je dis l'enfant, mais c'est le jeune adulte de se réaliser dans un horaire type de travail. Et là, il y a des activités qui lui sont proposées selon ses capacités pour continuer son développement, en fait, pour pas qu'il stagne, continuer de développer des acquis, maintenir aussi des acquis qui ont été développés à l'école et aussi permettre aux parents de continuer, lui, sa vie d'adulte. Donc, l'enfant se crée une vie en dehors de son parent, Puis c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche en tant que parent, c'est que notre enfant ait une certaine autonomie, une certaine forme de réalisation aussi. Puis ça, bien, ça prend des centres de jour, ça prend des programmes d'intégration au marché du travail. Puis c'est vraiment ça que nous, on veut soutenir à la Fondation.
Ouais,
parce qu'il y a un besoin.
Parce qu'aussi, bien, il y a évidemment des gens qui... ben, des cas plus lourds, on s'entend. Alors, ça peut être aussi des centres de répit un peu pour les parents, parce que là, comme on le disait, il y en a... chaque personne est différente, chaque personne autiste est différente. Alors, il peut y avoir toutes sortes d'organismes qui bénéficient de votre aide. Mais vous avez, en fait, là, vous me parliez d'un défi important qui s'en vient.
Mais oui, parce que pour tout faire ça, ça prend des sous.
Oui, oui!
Puis une façon d'amasser des sous, c'est d'organiser des événements. Et on en a un beau qui s'en vient, justement, le 23 septembre, qui est plus grand public. C'est une première pour notre fondation.
En même temps, j'imagine que ça sensibilise les gens.
Oui, bien oui, puis ça nous permet aussi, nous, d'une certaine façon, d'entrer en contact avec les gens qui soutiennent notre mission, d'aller à leur rencontre, de partager un moment avec eux aussi dans un contexte qui est agréable, qui est festif, qui est rassembleur. Donc, c'est organisé en collaboration aussi avec la Fondation Saint-Hubert. On est donc deux fondations qui vont chapeauter cet événement-là. C'est le 23 septembre prochain, c'est à Blainville, c'est au circuit PMG Technologie.
Okay.
Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que si jamais les gens ne pouvaient pas être là le 23 septembre, il n'y a comme pas vraiment d'excuses parce qu'ils peuvent le faire virtuellement aussi. Donc, ils peuvent s'inscrire.
C'est un circuit automobile, je
pense. Oui, mais en fait, c'est un défi sportif.
OK, c'est un défi sportif.
J'ai sauté une étape.
D'accord. Finalement, on profite juste des lieux, là, parce que oui, c'est une belle piste de course.
Il n'y a pas personne qui va faire de course automobile.
Non,
là.
Mais c'est de la course, peut-être, un défi sportif.
Avec nos running, notre vélo, à la marche, on y va. Dans le fond, l'objectif là, du défi, c'est de bouger pendant 4 heures.
D'accord.
Peu importe l'activité qui sera choisie, trottinette, planche à roulettes, il y a plusieurs options. Parce qu'effectivement, c'est un merveilleux circuit avec une belle piste.
Oui, c'est ça. La chaussée est parfaite.
Exact. Mais il faut qu'elle reste parfaite, donc il faut faire attention. Oui. Mais les gens peuvent s'inscrire en équipe ou toute seule. Donc, si je m'inscris seule au défi, je dois bouger, moi, pendant 4 heures. Si je m'inscris en équipe, là, je peux tricher un peu. C'est une personne de l'équipe qui doit bouger à relais pendant 4 heures. Ce qui fait que c'est vraiment accessible à tout le monde. Il n'y a pas d'excuse pour dire « moi, je ne suis pas un athlète, j'y vais pas ».
Non, mais comme on est à relais, on peut se mettre plusieurs.
Exactement. D'accord. Puis l'objectif aussi, c'est d'amasser des fonds pour soutenir notre participation au défi. Donc, on a un bel objectif quand même de 70 000 $ pour cet événement-là.
Oh, c'est bien. Alors, pour peut-être débuter un programme de mise en forme, on peut se rallier à votre cause en même temps. C'est un bon point de départ.
Exactement. Puis on se trouve beaucoup d'amis pour venir avec nous, pour que ce soit moins difficile.
Ah, bien ça, c'est sûr. Et puis je pense que mais les gens qui vivent ce genre de problématiques, c'est ça. Donc, bien sûr, ils ont des familles. Alors, ça amène des amis aussi. Alors, je pense que ça peut amener toute une synergie autour de ça. Alors, rappelez-moi la date de...
C'est le 23 septembre.
C'est le 23 septembre. Donc, on fait quoi pour s'inscrire et tout, là?
Donc, vous devez aller sur le site de la Fondation Autiste et Majeur. Donc, l'adresse, c'est simple, fondationautisteetmajeur.com. Sur la page d'accueil, il y a le lien pour aller sur la plateforme d'inscription. On s'inscrit en ligne, c'est vraiment facile, là. On crée notre profil, on met une photo, on peut écrire un mot personnalisé, on met notre objectif personnel et on partage ensuite dans notre réseau Facebook, sur notre réseau LinkedIn. On peut aussi envoyer des courriels à même la plateforme pour solliciter des dons par courriel. Puis là, on peut être créatif. Là. On peut se créer une équipe avec un nom, on peut arriver avec des costumes.
Ça peut être festif.
Exactement. Là. On peut se créer des activités aussi au sein de notre équipe de travail pour amasser des fonds pour notre défi si on a décidé de le faire en collègue. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites là, et mises de l'avant là, pour rendre ça là, vraiment intéressant comme expérience.
Donc, ça veut dire aussi que, ben, évidemment, par vos actions, je pense que ça démystifie en même temps, finalement, la réalité de gens qui vivent avec le spectre de l'autisme. Ça permet aux gens de mieux connaître, finalement, cette problématique-là.
C'est sûr que oui, nous, on cherche beaucoup à faire de la sensibilisation là, pour sensibiliser les gens à la réalité des familles avec des adultes autistes. Il y a eu plusieurs séries aussi qui ont été produites par la maison de production de Charles, là, Pixcom, les docu-réalités, Autisme majeur, Autisme maintenant majeur, etc. Donc, c'est sûr que cette série-là vient beaucoup toucher les gens, fait parler de ce que c'est l'autisme, puis sensibilise aussi aux besoins, aux manques dans la société. Donc, quand nous, on arrive après avec la Fondation pour aller chercher des fonds ou quand on soutient des projets, bien, il y a déjà un certain travail de fait, là, effectivement.
C'est ça. Donc, c'est stimulant pour vous, pour votre travail en même temps. Et puis, bon, comment vous rencontrez à travers tout ça? Comment ça se passe, les parents, la réaction et tout? Alors, j'imagine que c'est vraiment très... gratifiant de rencontrer ces gens-là.
Oui, bien justement, ce matin, j'ouvrais le courrier et on a reçu une super belle lettre d'une dame qui faisait un témoignage témoignage qui nous remerciait, puis qui, une lettre manuscrite, là, vous savez, comme on reçoit peu là, en 2023,
Dieu, oui, oui.
Qui nous remerciait, puis qui disait à quel point la fondation était importante, puis qu'elle faisait une différence. Puis elle racontait, en fait, dans sa lettre que sa sœur, elle est autiste. Puis là, elle disait même, j'ai fait un don à votre fondation, tellement je trouve ça extraordinaire ce que vous faites pour les familles comme la mienne.
C'est ça.
Donc, on vient vraiment en finançant des projets. Bien, les organismes, ils sont ça pour beaucoup aussi. T'sais, nous, on apporte le financement à l'organisme, et l'organisme crée le projet. Mais ça fait vraiment une différence dans le quotidien. Quand tu es un parent, que tu arrives, que tu ne sais pas si à 21 ans, il y aura des services pour ton enfant, que tu ne sais pas si tu vas pouvoir poursuivre, toi, ton travail, lequel des parents va sacrifier son emploi. Mmh. Ou tu sais, puis il y a des gens qui sont choyés, qui ont les sous pour des services privés, mais ce n'est pas la réalité
c'est
de tous.
Pas la... Non, ce n'est pas, pas tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ces moyens-là. Et puis, en même temps, c'est le principe du réseautage. Hein, quand on participe à ce genre d'événement, comme le défi qui s'en vient, oui, là, en septembre, eh ben, oui, ça permet aux gens aussi, les parents, de parler à d'autres parents et puis bon, de partager leurs expériences. Eh ben, Myriam Saint-Pierre, ça a été un plaisir de vous accueillir pour la Fondation Autistes et Majeurs. On s'informe bien sûr sur votre site pour avoir tous les détails. Bien entendu, il y a plein d'informations à aller chercher pour les parents qui ont des enfants autistes. Et puis, enfin, je pense que c'est extraordinaire ce que vous faites.
Bien, merci beaucoup. Puis moi, j'invite tout le monde à s'inscrire pour le 23 pour venir bouger,
oui,
avec nous.
Bouger. Et puis, c'est ça, que ce soit oui, entre amis, en famille. Enfin, il y en a pour tout le monde. Et puis, on peut faire ça en relais. Merci.
Merci.
Et puis, j'en profite pour remercier, bien sûr, Anaïs Sabourin à la recherche, Mathieu Tessier aussi à la mise en onde et au choix musical. Et je vous souhaite une bonne journée, chers auditeurs. On se retrouve demain, mercredi, milieu de la semaine, entre midi et 13h à M l'été. Ici Chantal Lavoie. Au revoir.